OK, on en est à notre 29e leçon. On est encore dans la Trinité, le développement de la doctrine de la Trinité. Aujourd'hui, on a comme titre « De la déité et de la personnalité distincte du Fils ». On avait vu dans la leçon précédente la personnalité distincte du Père. Alors, la doctrine de la divinité de Christ, on sait que c'est essentiel et d'une importance capitale. On pourrait dire notre destinée éternelle en dépend. Parce que dès que tu dis que Jésus n'est pas à la fois homme et Dieu, quand il est venu sur la terre, ça a des implications théologiques sur beaucoup d'autres doctrines. Alors, on doit savoir que le Fils est pleinement Dieu. Il a été Fils de toute éternité. Il n'est pas devenu Fils à un moment donné dans l'espace et dans le temps. Comme par exemple, certains ont enseigné qu'il serait devenu Fils à son incarnation, à son baptême, à la transfiguration, à la résurrection ou à d'autres moments. Mais ça, c'est tout faux parce que les Écritures enseignent de façon claire que Jésus était éternel, donc il existait comme Fils dans l'éternité même. Alors, on revient encore avec les trois co, là, les trois E. Il est co-éternel, co-essentiel et co-égal. Donc, les trois personnes de la Trinité sont égales en essence, donc avec chacun les attributs de Dieu, et en dignité, mais elles respectent un certain ordre en ce qui concerne leur personnalité, leur fonction et leur activité. C'est ça qui a amené des confusions dans le passé, parce que les gens ont cru que à cause que le Fils se soumet au Père, que ça fait de lui une personne inférieure. On avait vu une expression la semaine dernière d'un théologien qui résumait bien ces choses-là. Il appelait ça égalité ontologique, mais subordination économique. On avait expliqué un petit peu qu'est-ce qu'on voulait dire par ça. Donc, égalité ontologique, c'est égalité dans leur essence, dans leurs attributs, ils ont exactement les mêmes choses. Mais subordination, subordonner à quelqu'un, ça veut dire tu te soumets à quelqu'un, mais c'est dans un but d'ordre et c'est des fonctions que les trois personnes s'attribuent entre elles volontairement et ça n'implique aucunement quelque forme d'infériorité que ce soit. La première chose qu'on va regarder aujourd'hui, c'est des illustrations et certaines confirmations de la personnalité distincte du Fils. Comme on a vu mercredi, les théologiens, quand on veut dire que le Père est une personne, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne, il faut bien savoir que la définition qu'on donne au mot « personne », ce n'est pas la même que si on voudrait définir c'est quoi une personne humaine. Les personnes divines, les personnes humaines, il y a des choses qui sont similaires, mais il y a des choses qui ne se comparent pas. Alors, une définition qu'on pourrait dire, Gill donne la définition suivante, un individu qui subsiste, est intelligent, est vivant et qui n'est pas soutenu par un autre, ni qui fait partie d'un autre. Donc, le Saint-Esprit ne fait pas partie de Dieu, il est Dieu. Et alors, les Écritures enseignent que le Fils est l'empreinte exacte de la personne du Père. On a dans l'anglais l'expression « the express image ». Donc, « the express image », ça veut dire que c'est comme si on voudrait imprimer, une pièce de 2 $. Alors, on a un moule, et quand on presse sur du métal, ça reproduit exactement ce qu'il y a sur l'original. Et c'est exactement ça que les Écritures disent par rapport au Fils, qu'il est l'image express du Père. Donc, c'est vraiment comme une reproduction de chacun des attributs que le Père a, et de non seulement des attributs, mais son éternité et que son égalité. Dans Hébreux 1:3, en français, ça dit « Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » En anglais, ils disent « the express image », en français, disons, on dit « l'empreinte de sa personne. » « Et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Alors, quelques illustrations des choses qui le font apparaître comme étant distinct. Jésus-Christ était avec Dieu. Dans Jean 1:1, souvent, quand tu rencontres les témoins de Jéhovah, tu les amènes ce verset-là, et là, ils vont t'amener une traduction fausse qui vont dire « Il n'était pas avec Dieu, il était un Dieu avec un petit dé minuscule. » Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si tu es avec quelqu'un, ça implique qu'il existe une personne distincte. Alors, il est distinct du Père, il était avec. Donc, ça implique une distinction. Jésus-Christ a fait aussi une alliance éternelle. Normalement, tu ne fais pas une alliance seule. Il faut que tu sois à une alliance avec d'autres. Donc, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 9, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Donc, on parle de grâce donnée par le Père, on parle de grâce donnée par le Fils, ça implique que le Père et le Fils sont distincts. Jésus-Christ a été envoyé par le Père. Comment pourrait-il être envoyé s'il n'y a pas quelqu'un de distinct de lui qui l'a envoyé? Galates 4:4. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Voyez-vous, Dieu, le Père, a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Donc, si Dieu envoie quelqu'un, c'est parce qu'il est distinct de lui. Jésus-Christ a aussi accompli la réconciliation. 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, il nous a réconciliés, mais la personne qui est utilisée pour la réconciliation, c'est la personne de Christ. Son ascension est le fait qu'il siège à la droite de Dieu. Psaume 110, verset 1, de David, psaume, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Dans le contexte, on parle de Christ, et il dit à Christ, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis mon marchepied. » Alors, ça implique que s'il dit « Assieds-toi à ma droite », il ne peut pas dire à quelqu'un « Assieds-toi à ma droite » s'il n'est pas distinct de toi-même. Et Hébreux 1, verset 13, « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Aussi, son intercession auprès du Père. Si on intercède auprès de quelqu'un, ça implique que la personne à qui tu t'adresses est différente de toi. 1 Jean 2:1 « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » C'est un avocat auprès du Père. Ça implique que l'avocat est différent de celui auquel il plaide. Ça sera aucunement logique. Jean 14, versets 16 et 17, le Seigneur lui-même dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Je me demande comment les unitariens qui disent qu'il y a eu seulement une personne, que c'est juste des manifestations, comment ils peuvent justifier un verset comme ça, parce qu'il dit, « Je prierai le Père. » Elle implique que le Père est différent de lui, mais eux, ils disent qu'il n'y a rien qu'un. Il n'y a pas de trois personnes de la Trinité. Il jugera aussi le monde. Jean 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Les saints seront avec lui, vivront avec lui et demeureront avec lui pour l'éternité. Dans Jean 17, verset 24, le Seigneur lui-même dit dans la prière sacerdotale, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Comment quelqu'un qui n'est pas différent de toi peut-il t'aimer? C'est comme... Deuxième point qu'on va regarder, c'est que sa divinité est prouvée par plusieurs expressions ou plusieurs passages des Écritures qui parlent de sa divinité. Sa divinité est prouvée par plusieurs choses. Jésus-Christ porte des noms divins. Le mot qui est utilisé dans Exode 3,14, c'est le mot qu'on pourrait, en français, pour le prononcer, c'est « Edje », E-H-J-E-H. Le mot dans l'hébreu, c'est « Edje ». Et c'est le mot qui est équivalent à « Jéhovah ». Quand on dit « Je suis celui qui suis », dans Exode 3,14, quand Moïse, devant le buisson ardent, Dieu a dit à Moïse, « Je suis celui qui suis », et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Si vous allez, j'ai un petit logiciel à la maison où on peut voir la traduction littérale de l'hébreu. En dessous, vous avez la traduction anglaise. Et le mot, c'est vraiment le mot « E-H-J-E-H ». C'est un nom de Dieu qui est équivalent à celui de Jéhovah. Alors, quand Jésus dit dans le Nouveau Testament « Je suis ego emi », il dit exactement « Je suis celui qui suis ». Et la preuve que les Hébreux de l'époque interprétaient ça comme ça, c'est qu'ils ont voulu le lapider dès qu'il a dit ça. Autrement dit, il s'attribuait à lui-même un nom qui n'appartient qu'à Dieu. Alors, Jésus a utilisé ce nom pour lui-même dans Jean 8, versets 57 et 58. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Mais là, des fois, dépendamment des versions, c'est pas toujours évident. C'est vraiment dans le grec où tu vas voir que c'est le mot grec utilisé, c'est « ego emi ». C'est vraiment l'équivalent de « je suis celui qui suis ». Alors, il disait quelque chose d'énorme. Alors, pour les Hébreux de l'époque qui n'étaient pas convaincus que Jésus était Dieu, il dit « tu blasphèmes ». Pour eux autres, c'était comme un homme qui se disait Dieu. Alors, il était prêt à le lapider pour ça. Les Juifs l'accusèrent de blasphémer parce qu'il s'était attribué le nom de Dieu. Le nom aussi Jéhovah, le nom qui est incommunicable. Dans Jérémie 23, 6, on avait vu les noms de Dieu dans une leçon précédente. Le fameux nom Jéhovah Tikkenu. Jéhovah Tikkenu qui veut dire l'Éternel, notre justice. Dans Jérémie 23, 6, c'est Dieu le Père qui parle de la venue future du Messie. Et voici ce qu'il dit. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. » Bien important de se souvenir que le Seigneur dit qu'il ne donnera jamais son nom à qui ce soit d'autre. Il faut qu'il donne à Dieu un autre, à quelqu'un qui est son égal, parce que sans ça, ça ne fonctionnera pas. Il dit, dont on l'appellera, et dans l'hébreu, c'est Jéhovah Tikkenu. Il appelle Jésus Jéhovah. Alors, c'est une preuve très, très sainte. Alors, Jéhovah Tikkenu, dans l'hébreu, ça veut dire l'Éternel, notre justice. Et ça va avec ce qu'on a parlé dans la doctrine du salut, où on dit que Christ a non seulement subi nos péchés à notre place, mais qu'il a accompli notre justice. C'est ce que ça dit, l'Éternel, notre justice. On n'est pas sauvé, on n'est pas déclaré juste sur la base que nous, on a fait des bonnes œuvres, puis le Seigneur a pris une balance, puis il a regardé ça, puis il a dit, « Ah, lui a fait plus de bonnes œuvres que de mauvaises, donc je le déclare juste. » Notre justice, c'est celle de Christ, l'Éternel, notre justice. C'est bien important de saisir ça, parce que ça, c'est capital. Donc, il y a un parallèle aussi entre certains passages. Vous prenez certains passages de l'Ancien Testament et vous venez regarder certains passages qui parlent de la même chose dans le Nouveau. Et là, on voit que dans l'Ancien, il fait référence à Dieu, et dans le Nouveau, on parle d'exactement la même chose, mais en attribuant ça à Christ. Donc, à quelque part, il faut que tu fasses le lien, comme dans Exode 17, verset 7. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Et on sait, dans l'Ancien Testament, la personne qui suivait, qui était avec le peuple d'Israël, c'était Christ. Alors, si ça dit, il avait tenté l'Éternel, et quand vous faites le parallèle avec le passage en Corinthiens 10, verset 9, ça dit, ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Alors, on parle dans l'Ancien Testament du Christ, et là, il dit, ne tentons point le Seigneur comme les gens l'ont fait dans l'Ancien Testament. Alors, tu fais le lien que Jésus-Christ est Dieu. Il y a aussi un autre parallèle qu'on peut faire. Il y a plusieurs parallèles, on en fait au moins trois. Le parallèle entre Ésaïe 40, verset 3, et Matthieu 3, verset 1 à 3. Dans Ésaïe 40, verset 3, ça dit, « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Et dans Matthieu 3, verset 1 à 3, « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, l'Éternel dit, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. » Et ici, on a dit, Jean-Baptiste prêche dans le désert, il fait un lien avec ce passage-là, il dit « Préparez le chemin du Seigneur ». Alors, si on parlait de l'Éternel dans l'Ancien, et il utilise le même passage pour faire un parallèle, alors c'est sûr que ça veut dire que Christ est Dieu. Aussi, le parallèle entre Zacharie 12:10 et Jean 19, versets 34 et 37. Dans Zacharie 12:10, ça dit « Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Si on lit Jean 19, versets 34 et 37, ça nous dit « Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. » Aucun de ses os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Alors, c'est ici, il dit, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, il parle de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il prend une référence au même passage pour parler de Christ. Les passages sont vraiment clairs. Dans 1 Timothée 3:16, 1 Timothée 3:16, c'est un passage qui a été disputé dans les traductions parce que c'est un verset d'une clarté extrême sur le Christ et certaines versions ont plus ou moins traduit l'idée correctement. Dans 1 Timothée 3:16, ici j'ai utilisé la version de David Martin qui a traduit la Bible, un pasteur très fidèle qui a mené une vie très sainte, qui a fait la traduction pour les protestants de l'époque à partir des textes originaux pour l'hébreu, l'Ancien Testament et pour le Nouveau Testament dans le grec. Et il l'a fait à partir du texte reçu. Et le texte reçu est très clair dans 1 Timothée 3:16 concernant la divinité de Christ. Ça dit, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Savoir que Dieu... » qu'un D majuscule, a été manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru au monde et élevé dans la gloire. Alors, c'est clair, puis dans la version King James, pour aller prendre une version King James, c'est extrêmement clair aussi, ça dit bien que Dieu a été manifesté en chair. Peux-tu avoir un verset plus clair que ça pour parler de la divinité de Christ? Ça dit que Dieu était manifesté en chair. Et il y a seulement Christ qui a été manifesté en chair. Il y a aussi Tite 2:13 qui est un verset exactement aussi important concernant la divinité de Christ. Encore là, les traductions sont plus ou moins heureuses. Si on prend la version Sterval, qui, elle aussi, a été construite sur le texte reçu, vous allez voir, ça dit « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Notre grand Dieu et Sauveur. Dans la version, c'est un petit peu moins clair, dans la version Louis II. Ici, c'est vraiment clair parce que ça dit « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur. » Le mot « Dieu et Sauveur », il y a un « et » là qui est très important. Il est à la fois Dieu et Sauveur. 1 Jean 5:20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il y a tellement de passages, et là je suis loin de faire une job qu'on pourrait dire, pour utiliser une expression québécoise, une job, qui fait un travail exhaustif. Il y a des bouquins, des grosses briques qui ont été écrits uniquement sur ce sujet-là et qui développent la divinité de Christ avec beaucoup plus de profondeur. Ici, on voit quelques versets qui devraient nous suffire, là. Mais si quelqu'un a des problèmes ou des doutes avec ça, il devrait de s'acheter un bon livre qui parle de la divinité de Christ et qui la développe plus en profondeur de manière à ce que dissiper tout doute dans son esprit à ce côté-là, sur ce côté-là. Aussi, les Écritures nous disent que Jésus-Christ possède et exerce tous les attributs divins. Là, c'est sûr, ce matin, on ne pourra pas prendre tous les attributs un par un pour voir si Christ les avait. On pourrait le faire et on arriverait à la même chose. L'éternité, qui n'est certainement pas une petite chose concernant Christ, dans Jean 8, verset 58, les Juifs lui disent « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis celui qui suis. » Donc, s'il se disait qu'il était Dieu, ça impliquait qu'il y avait une existence qui était avant celle avant même la création. Apocalypse 22, verset 13, le Seigneur Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Donc, ça implique sa divinité. Quand quelqu'un dit « Je suis l'alpha et l'oméga », ça implique qu'il est le début et la fin de toute chose. L'omnipotence. J'ai pris certains attributs pour trouver des versets qui prouvent les choses. Cependant, je pense qu'on pourra faire une liste de tous les attributs sans exception et de trouver des versets qui justifient que Christ possédait ces choses-là. L'omnipotence. Matthieu 8, verset 27. « Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? » Quand le Seigneur était sur le lac, et le lac était en furie, il a juste dit une parole, « On se calme » et ça s'est calmé. Alors, commander la nature, il faut que tu sois plus qu'un homme. Là. L'omniscience. Marc 2, verset 8. « Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? » C'est-à-dire que Christ était capable de lire dans l'âme de quelqu'un, dans son esprit. Nous, on n'est pas capable. Des fois, on regarde quelqu'un, on se dit, peut-être qu'il pense ça, mais peut-être qu'il pense autre chose aussi. On pense qu'il pense ça, mais on est jamais sûr. Christ était sûr. L'omniprésence. Matthieu 28, versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça implique vraiment l'omniprésence. Il se dit qu'il est avec nous, mais pas juste le 20e siècle, 21e siècle. Les chrétiens du 1er siècle, les chrétiens du 2e siècle, les chrétiens du... tous les siècles à venir jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur il a été avec tout le monde qui était chrétien depuis le début qui est venu sur la terre, et même avant, avec le peuple d'Israël. Et alors, quand il dit, ça implique l'omniprésence. Mm-hmm. Il dit qu'il est avec nous autres. Il était présent avec Spurgeon au 19e siècle, puis il était présent avec Gill au 18e, puis il était présent avec les autres, ceux de la Réforme, et il était présent avec tout le monde, tous ceux qui portaient son nom. Puis il le sera si, je sais pas, si ça arrivait que le Seigneur permette qu'on vive encore deux siècles, il va être avec tous les chrétiens jusqu'au moment de son retour. L'immortalité n'est certainement pas une petite chose. Jean 2, verset 19. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dit. Alors, lui parlait dans un sens symbolique ou figuré, et eux, ils interprétaient ça. Il parlait de son temple, puis en trois jours, la preuve, ils l'ont tué, ils l'ont cloué, ils l'ont percé avec une lance, ils l'ont mis, il était définitivement, véritablement mort. Et c'est lui qui s'est reconstruit, parce que les Écritures parlent de la résurrection comme étant le Père a ressuscité le Fils. Les Écritures disent aussi que le Christ est ressuscité lui-même. Et les Écritures disent aussi que l'Esprit a ressuscité Christ. Alors, les trois personnes sont impliquées dans la résurrection pour qu'il soit capable de se ressusciter lui-même, comme il dit. Détruisez ce temple et en trois jours, je le reconstruirai. La preuve qu'il n'avait rien compris. Mais les disciples, après son départ, ils ont dit, « Ah, il parlait de son corps. » Ils ont allumé. Le pouvoir de pardonner les péchés. Ça, c'est pas vraiment, là, c'est comme si quelqu'un affirme qu'il est capable de pardonner les péchés et que c'est vrai, il y en a qui peuvent l'avoir dit, mais que c'est pas nécessairement vrai. Mais lui avait véritablement le pouvoir de pardonner les péchés. Dans Matthieu 9, verset 6, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Alors ici, il démontre deux choses de sa divinité. Premièrement, la capacité de faire lever quelqu'un qui était paralytique. Et en plus, il avait demandé avant aux Juifs, c'est quoi qui est le plus facile? Les Juifs, c'est sûr qu'ils disaient que c'est sûrement, à leurs yeux, plus difficile de prendre quelqu'un puis le faire lever. Il leur dit en même temps aussi, je vais vous montrer un autre pouvoir que je veux, celui de pardonner les péchés. Marc 2, versets 5 à 12. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Juste ce passage-là, il y a au moins trois références à la divinité de Christ. Lire dans les esprits, capacité de guérir une personne, puis pardon des péchés. Juste dans un passage, il y a trois références à la divinité de Christ. Maintenant, le pouvoir d'être adoré. Si quelqu'un va jusqu'à affirmer « Vous pouvez m'adorer », c'est parce que ça implique qu'il est Dieu. Hébreux 1, 6. « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il parle de Christ, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ça, c'est un passage qui fatigue bien gros les témoins de Jéhovah. Alors, quand tu connais Jean 1:1, puis tu connais le passage d'Hébreux ici, Hébreux 1, 6, Jean 1, c'est deux très excellents versets à utiliser avec les témoins de Jéhovah. Mais s'ils utilisent leur propre version, vous allez voir qu'ils ont tordu, ils ont traduit tout croche. Et aussi, autre chose qui démontre la divinité de Christ, c'est que Jésus-Christ a accompli des œuvres qu'on attribue à Dieu seul. L'œuvre de la création. La création à partir de ce qu'il appelle en théologie des fois ex nihilo, c'est vraiment la création à partir de rien. Moi, personnellement, je ne m'accommode guère avec la théorie de l'évolution. Je pense que c'est faux. Et les Écritures sont claires et il y a beaucoup de versets qui le démontrent. Alors, il faut que tu fasses ton choix, ou tu crois les scientifiques ou tu crois la Bible. Moi, mon choix est fait. Colossiens 1, 6, car en lui, on parle de Christ dans le passage, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, donc ça implique les anges, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc le fait qu'il nous soutient par sa parole puissante, c'est ça qui fait qu'on est encore vivant, on est encore debout. Aussi, sa participation dans l'œuvre de la Providence. Jean 5, verset 17, Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. » L'œuvre de la rédemption, et là, c'est sûr qu'on pourrait allonger la liste de tous les aspects de l'œuvre de la rédemption. On va en prendre juste quelques-uns, la justification, la résurrection et le jugement. 1 Corinthiens 6, verset 11, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Donc, on parle de justification. Jean 10, verset 17 et 18, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Alors, il y a le pouvoir de la vie. Et oui, il y avait un Lazare qui était déjà mort, et le Seigneur a dit, « Lazare, lève-toi, un mort, commandé au mort, et tu lui recommuniques la vie. » Ça impliquait la divinité. Et pour le jugement, Jean 5, 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Aussi, le fait que Jésus-Christ ait prié. Si on prie quelqu'un, ça implique, à part que si on est dans l'erreur doctrinale de prier des saints ou de prier des anges ou de prier quelque être humain que ce soit ou quelque être angélique que ce soit, normalement, la Bible dit qu'on devrait prier uniquement à Dieu. Acte 7, verset 59. On a ici l'idée de Étienne avant qu'on le lapide. Étienne dit dans Acte 7, verset 59, « Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Alors, Étienne était très certainement très conscient qu'il s'adressait à Dieu. Il a dit, « Seigneur, reçois mon esprit. » Et il s'adressait à Christ. Parce qu'il dit, « Seigneur Jésus. » Alors, c'est sûr que c'est clair qu'il n'y a pas de confusion là. Alors, quelles sont les applications qu'on peut tirer d'une leçon comme celle d'aujourd'hui? Apprenons et méditons sur la grandeur infinie de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, tout ce qu'on a vu sur Dieu le Père est applicable au Dieu le Fils. C'est dans ses mains que nous avons confié le sort éternel de nos âmes. On voyait dimanche, Jean portait l'idée de Jean 10 quand il dit « Ils sont dans ma main et personne ne les ravira de ma main. » Et comme autrement dit, il est en train de nous dire, on est là, puis il n'y a pas personne qui est assez fort pour venir enlever ça de là. Alors, c'est sûr qu'en sachant qu'on est dans sa main, c'est rassurant de savoir que notre sort éternel lui est confié. Autre application que je dirais, connaissons le mieux. C'est sûr que lire la Bible à tous les jours, c'est un très bon moyen, mais il existe d'autres moyens, l'étude. Des fois, en étudiant certains attributs du Seigneur ou certaines choses qu'il a fait quand il est venu sur la terre, son don de guérison, commander les éléments, commander les démons. Il y a une multitude de choses qu'on peut apprendre sur Christ. Et moi, j'ai vu dans ma vie chrétienne des jeunes chrétiens qui considéraient que le démon était presque aussi puissant. Ils voyaient ça comme une guerre entre deux personnes qui sont presque égalité, puis que ça prendrait juste un petit quelque chose pour que le démon gagne. Il n'y a rien de plus faux qu'une telle affirmation. Dieu est infiniment plus puissant que le malin, que Satan, quoique le malin soit extrêmement puissant, mais sa puissance, si on la compare à celle de Christ ou à celle de Dieu le Père ou du Saint-Esprit, c'est comme un grain de sable comparé à l'univers, et encore le grain de sable est trop gros, l'univers est trop petit. Parce que ça n'a rien à voir avec... Alors, aimons le plus, servons le mieux et plus. Aussi, deuxième application, comme la doctrine de la divinité de Jésus-Christ constitue le cœur même de notre foi, crampons-nous-y avec force, avec courage et avec joie. Rendons-lui gloire et adorons-le. Amen.
Amen.